Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie.
Tout ce qu'on crée, c'est une réponse à la violence.
Il faut pouvoir occuper l'espace.
L'évolution qu'on est en train de vivre.
L'archive, c'est notre mémoire.
Nous œuvrons pour une école de la transformation sociale et non de la reproduction. Une école critique dont la finalité ne serait pas l'intégration sur le marché du travail, mais où le savoir émancipateur serait un acte valorisé de création. Il s'agit aujourd'hui de bâtir l'institution scolaire sur de nouvelles fondations. Notre ambition est de proposer une école adaptée à tous, qui prendrait en compte les parcours de chaque enfant et de sa famille, en nous encourageant ensemble dans une pédagogie de l'espoir et de l'amour. Pour ce nouvel épisode de l'Affranchi Podcast, nous recevons Lydia Amarouche, Karim Betayeb et William Beroum, à l'occasion de la publication de l'ouvrage collectif « Entrée en pédagogie antiraciste, d'une lutte syndicale à des pratiques émancipatrices », porté par Sud Éducation 93 et publié chez Shed. C'est parti. Bonsoir Lydia.
Bonsoir.
Bonsoir Karim.
Bonsoir.
Bonsoir William.
Bonsoir.
Quel travail, quel superbe travail, donc bravo déjà pour ça. Je pense qu'il était nécessaire ce livre, il y a énormément de choses dont on va pouvoir parler, qui vont, je suis sûre, révolutionner l'éducation nationale. C'est exactement pour ça qu'on est là, n'est-ce pas? Aujourd'hui, Lydia, tu vas commencer parce que tu es donc la co-directrice de la maison d'édition Shed, qui porte le projet, qui est une maison d'édition bien spécifique, en tout cas dans la façon en fait, de travailler. C'est ce que tu me disais un peu avant, que vous essayez vraiment au maximum en fait, de créer quelque chose de peut-être un peu plus horizontal dans les façons d'éditer. Et c'est vrai que ce sont plein de questions, nous, qui nous intéressent beaucoup dans les champs féministes les plus larges possibles. Parce que comment on fait des livres autrement, c'est aussi une façon, en fait, de révolutionner le monde, hein, en vrai. Ce livre, il a... Je vais le nommer quand même, parce que depuis tout à l'heure, je ne donne pas son titre. « Entrée en pédagogie antiraciste, d'une lutte syndicale à des pratiques émancipatrices ». Donc, c'est porté par Sud Éducation 93. Tout est dit. Et donc, il est quand même né, ce livre, d'une démarche assez particulière, d'une sorte de toute petite polémique. Est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, avec plaisir. Bah, déjà, merci beaucoup de nous recevoir. Moi, je suis très contente d'être à Lille aujourd'hui pour parler du livre, pour parler de la maison d'édition. Et voilà, merci beaucoup Swazik et l'équipe de La Franchie. Puis on parle d'école aussi, donc juste une petite parenthèse, moi, j'ai grandi à Lille et on parle de l'école, mon lycée est à quelques minutes d'ici, mon collège, voilà, à 15 minutes d'ici, donc ça résonne particulièrement, quoi, d'être ici ce soir. Et donc pour vous dire quelques mots sur Shed et sur notre façon de travailler, donc la maison d'édition, elle existe depuis 2020. Donc je l'ai fondée en 2020. Aujourd'hui, on a un collectif de 4 éditrices. Et on travaille autour de 2 collections. On a une collection d'essais, de critiques sociales et politiques, et une collection jeunesse. Et donc dans la collection d'essais, l'idée, en fait, c'est de travailler avec d'autres collectifs de terrain. Là, en l'occurrence, par exemple, voilà, Sud-Éduc 93 avec le syndicat Sud-Éducation 93. Mais ce qui nous intéresse, c'est de se saisir des archives de terrain et de leur donner une deuxième vie, d'accompagner des collectifs qui mènent un travail politique, notamment sur les questions d'antiracisme, et de les accompagner dans l'écriture pour faire circuler tous ces outils. En fait, on pourra y revenir typiquement avec ce projet-là, on pourra revenir dessus... avec William et Karim, mais voilà, là, on avait quelque chose, qui m'a donné super envie au moment où je lançais la maison d'édition, enfin, avant même, en fait, qu'il y ait un livre qui soit sorti. Il se trouve que je connaissais des personnes, notamment Karim, qui avait monté ce stage, en fait, de pédagogie antiraciste pour les personnels de l'éducation, donc dans leur syndicat Sud-Éduc 93. Et donc voilà, ce stage, c'était vraiment réfléchir à la... Enfin, c'était un désir de réfléchir au racisme à l'école, mais de l'intérieur, et sortir aussi d'un rapport de l'antiracisme moral ce qui existait en fait ce qui existait jusqu'alors en fait dans le traitement du racisme. Et donc il y avait une invitation à la fois des chercheurs, des chercheuses, des sociologues, des historiens, historiennes, mais aussi des personnes du champ associatif pour analyser les spécificités du racisme à l'école, à la fois dans l'accueil des familles, dans l'accueil des élèves, dans bien sûr le truc qui nous vient tout de suite, l'orientation. D'ailleurs, on le dit dans l'avant-propos, dans le rap français, il y a cette figure de la CPE, de la conseillère d'orientation, qui est vraiment le truc archétypal en fait du racisme à l'école et du tri en fait qui existe social et racial. Donc il y avait toute une série de personnes qui analysaient, vous pouvez en parler beaucoup mieux que moi, mais des pédagogues, des personnels de l'éducation qui réfléchissaient à des outils concrets contrer les biais dans l'enseignement, chacun, chacune dans leur pratique, des enseignants d'histoire-géo, de mathématiques, des AED, des CPE, des documentalistes qui réfléchissaient à ces questions. Et donc voilà, il y a eu plusieurs stages. Donc bien sûr, moi, comme tu disais, tu l'as mentionné, Swazik, faut se rappeler. Là, on est tranquille, on en parle, mais en fait, il y a une grosse polémique en 2017. Il y a eu un backlash, assez violent en fait, à la fois du ministre de l'Éducation de l'époque, donc Jean-Michel Blanquer, et puis de députés aussi. Les Républicains, il y a eu la fachosphère qui vous est tombée dessus aussi à ce moment-là. Donc moi, j'avais entendu parler de tout ça. Et ce qui a gêné, je pense que c'est à la fois le fait d'adresser la question du racisme, mais du racisme d'État, dans l'institution scolaire, que ça vienne de l'intérieur, de la part d'agents en fait, de la fonction publique, et que ce soit aussi des personnels de l'éducation racisés. Je pense que c'est ça qui a, c'est quelques facteurs en fait qui ont créé cette polémique et cette répression en fait judiciaire. Et donc tout un détour pour vous dire qu'en fait il y avait toute cette matière qui a été créée pendant les stages et qui est en fait dans le cadre syndical. Et donc moi j'ai proposé d'en faire quelque chose et de travailler ensemble en fait dans cette maison d'édition naissante on a compilé il y a eu trois stages donc 2017, 2019 et 2022. 2022 on avait déjà commencé le travail ensemble, le travail éditorial on a compilé un peu des interventions bien sûr. Là, vous voyez, le livre est assez épais, il fait 400 pages, mais on n'a pas pu tout mettre, bien sûr. Donc, il y avait une forme de... on a aussi sélectionné en fonction aussi des archives qu'on avait, parce qu'on n'avait pas toutes les archives. Donc, on a essayé de recouper tout ça. Et on a vraiment travaillé en lien très, très étroit entre la maison d'édition et... dans le syndicat, c'est la commission antiraciste. Peut-être que vous pourrez revenir dessus, expliquer en fait ce que c'est cette commission antiraciste. Et donc voilà, il y avait six autres personnes. On est trois, donc il y a deux personnes de la commission ce soir. Mais donc on a entamé ce travail ensemble et ça a donné le livre. Et puis avec l'envie de faire circuler ces outils et puis qu'il y en ait d'autres aussi qui se créent parce que bien sûr. C'est un ouvrage qui est déjà dense, mais qui ne peut pas recouvrir tous les enjeux en fait, de l'antiracisme à l'école. Donc voilà un petit peu pour mettre quelques billes dans la discussion.
Donc on entend bien, Shed, vous l'avez créé donc, en 2020. La première formation, elle a lieu en 2017. Donc évidemment, vous étiez déjà sur le terrain. Alors je dis vous, Karim et William, vous faisiez déjà partie du syndicat depuis 2017, et moi j'imagine un peu avant. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment en fait on en vient à créer en fait cette commission qui est bien spécifique avec donc des personnes racisées, c'est ça, hein, c'est uniquement des personnes racisées dans cette commission, et qui mettent en place comme ça en fait des ateliers qui ne sont pas à destination que des personnes racisées. Il y a surtout en fait ce travail-là en fait de permettre à des personnes qui se poseraient des questions, qui voudraient agir ou qui ne sauraient pas comment faire, etc., d'assister en fait à ces formations. On est bien d'accord, j'ai tout compris.
Exact. Je vais commencer, je pense.
Vas-y.
Comment on en vient à créer ça? Alors déjà, je voudrais dire merci de nous accueillir dans cette magnifique librairie. C'est une des plus belles que j'ai vues, mais il ne faut pas le dire aux autres. Mais, mais franchement, très très... non, non, c'est pas grave. Alors, comment on en vient? En fait, je pense que la première des choses, c'est de se dire que la question de la race à l'école, elle est pas du tout... Enfin, elle est taboue, en fait. On n'en parle pas. Le racisme, on n'en parle pas. C'est quelque chose qui... qu'on traite que dans l'aspect interindividuel, en fait, entre personnes, avec vraiment cette question du racisme moral et de « attention, c'est pas bien de dénigrer une personne, de minimiser cette personne, etc. » sans jamais porter l'attention sur d'où il vient, en fait, ce racisme moral. Il découle d'un système qui le produit et qui le permet. Et donc, quand on part de ce postulat-là, en fait, on se dit que l'école n'est pas épargnée par ça, et que cette école qui est ce lieu de protection, ce lieu qui serait à l'écart de la société, etc., en fait, on se dit, ce cocon-là, il peut pas être raciste. Et en fait, si, il l'est. Dès le plus jeune âge, les enfants non blancs le savent, le ressentent. Et je pense que cette question du racisme-là, en fait, on peut pas passer à côté. Et cette commission antiraciste, elle est née parce que en fait on a été plusieurs à assister à un stage qui a eu lieu à l'UPEC, donc qui est l'université de Créteil, de chercheurs qui ont commencé à parler de cette question-là, mais d'un aspect c'était beaucoup plus axé sur la recherche. Et donc suite à cette formation-là qui avait eu lieu dans cette université-là, nous on s'est rendu compte que il n'y avait pas le côté quand on sort de la recherche, il n'y avait pas le côté terrain, en fait. Qu'est-ce qui se passe pour des enseignants blancs qui enseignent à une majorité, à une classe à majorité d'élèves non blancs? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on a des enseignants non blancs qui enseignent à des classes et qui enseignent avec des enseignants à majorité blanche? Voilà. Donc, et tous ces mécanismes-là, qu'est-ce qui se passe quand on a des programmes qui invisibilisent totalement l'histoire de ces enfants non blancs? Et donc, en partant de ces postulats-là, et en partant aussi d'une forte envie, en fait, des enseignants d'être outillés, de savoir comment faire et de savoir ce qui se passait et d'avoir une vision, un état des lieux de ce qui se passe aujourd'hui en France, on s'est dit qu'il fallait qu'on crée un stage sur ça. Et en fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est que la commission antiraciste, au départ, elle n'était pas non mixte. Elle était... Il y avait des personnes blanches dedans. Et par ailleurs, le premier stage, il est né de quelques personnes blanches qui avaient assisté à ces formations à l'UPEC et qui, par la suite, se sont un peu rendu compte que c'était un peu un non-sens de faire un stage sur le racisme sans avoir des personnes qui subissaient le racisme, en fait. Et donc, c'est comme ça que nous, on a été intégrés dans ce lancement, en fait, de ce premier stage. Et c'est comme ça que très vite s'est posée la question aussi de comment, dans cette commission antiraciste, il fallait que les voix des personnes non blanches soient portées et soient entendues, soient écoutées. Cette commission, elle a beaucoup évolué, donc on pourra peut-être revenir sur ça. Mais en tout cas, elle a donné lieu à ce premier stage de 2017, dont Lydia a parlé, qui a été inédit. Ça a été la première fois qu'on adressait la question du racisme systémique à l'école et qu'on l'adressait en termes de personnel d'éducation de terrain qui enseigne tous les jours à des élèves de la maternelle au lycée, pour le coup. Après, on a aussi abordé d'autres questions, on a aussi abordé la question des étudiants, etc. Mais voilà. Et qui voulait à la fois visibiliser le racisme d'État, mais aussi, ne pas en rester là, mais aussi trouver des solutions ensemble et outiller les personnes, parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais la plupart des professeurs sont démunis face à ces questions-là, en fait.
comment on traite la question... Enfin, comment, si on n'est pas conscient de ce qui se passe et d'un système raciste, comment on traite la question de l'orientation de la même manière ? C'est pas possible, en fait. Donc c'est un peu... Voilà, c'était inédit. Et ce qui est assez intéressant, c'est que très vite, notre stage, il a eu un écho et beaucoup de gens se sont inscrits. Au départ, on avait 80 places. Parce que faut ça... Enfin, pour mesurer un peu, Sud Éducation 93, c'est un petit syndicat local... Voilà, en fait, on a fait ce stage-là qui était ouvert à toute la France, mais voilà, avec les moyens d'un petit syndicat local, etc. Donc, il y avait 80 à peu près, c'est ça ? Si mes souvenirs sont bons, ça commence à remonter. Et en fait, très vite, les 80 places ont été prises, ça s'est rempli assez rapidement. Et quand la fachosphère s'est emparée de notre stage et que Blanquer a pris le pas, enfin emboîté le pas de la fachosphère en disant c'est inadmissible, etc., en annonçant à l'Assemblée nationale qu'il allait porter plainte contre notre syndicat, et il a été applaudi par tout le monde, hein, par de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche, il a eu une ovation. Et bien là, en fait, ce qui était censé nous nuire a au contraire visibilisé un besoin très très fort dans le milieu de l'éducation, d'être formé sur ces questions-là. Et en fait, on a été enseveli de gens qui voulaient s'inscrire au stage. Et donc, on a dû ouvrir le nombre de places. Je crois qu'on est monté jusqu'à 120, c'est ça, pour des stagiaires qu'en fait, qui voulaient venir et qui voulaient en savoir plus, qui voulaient découvrir la question. Donc c'est comme ça que la commission après a pris de l'essor et que du coup on s'est dit ils portent plainte contre nous, on va faire un deuxième stage, c'est pas grave. Donc il y a eu un deuxième, puis il y a eu un troisième, et il faut savoir qu'en fait Blanquer a porté plainte une première fois contre nous pour diffamation, parce qu'on a dit racisme d'État, et que c'était de la diffamation, vous comprenez. Et ensuite sa plainte est tombée à l'eau, elle était pas recevable, donc en fait il a porté plainte une nouvelle fois pour discrimination, parce que parmi la vingtaine d'ateliers qui étaient proposés, il y en avait deux qui étaient en non-mixité choisie, non-mixité raciale, et en fait, il a considéré que c'était de la discrimination, à l'encontre des Blancs. Donc il a porté plainte contre nous, ça a donné lieu à des auditions au commissariat, ça a donné lieu à toute une enquête, etc., malgré le fait qu'en fait, il n'y avait rien, le dossier était vide, parce que personne n'avait porté plainte pour discrimination, et que c'était le ministre de l'Éducation nationale qui portait plainte pour discrimination, alors qu'il n'était pas là. Et donc du coup, c'est tombé à l'eau, et ensuite, on a eu une troisième plainte de 5 députés LR qui ont demandé la dissolution du syndicat. Parce que vous connaissez, on est dans l'époque des dissolutions, c'est à la mode. Et donc il a demandé la dissolution du syndicat, ils ont perdu. Et là, ils font appel. Donc là, en ce moment, on est dans l'appel. Donc c'est pour vous dire que depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, on est dans un acharnement, en fait, une sorte d'harcèlement de la part de ces personnes représentantes de l'État, quoi, contre le syndicat.
Et de sortir le livre, là, maintenant non, mais parce qu'on voit, on sait bien qu'ils peuvent continuer à penser, arrêter les choses, etc. Et on l'a vu, nous, sur des livres aussi précédemment qui ont... Enfin, voilà, que l'Éducation nationale ou d'autres ont tenté de censurer des choses comme ça. Est-ce que tu as eu des choses, Lydia, à ce sujet ? Vous avez... des retours depuis la publication ?
Non, on n'a pas eu de... On n'a pas eu de mauvais retours, tant mieux, on touche du bois. C'est que pour que ça continue, quoi, on n'a pas eu de... Enfin, ouais, on est sous les radars, donc on peut continuer à faire nos trucs, et on avance, et on n'a pas eu de problème. Non.
Ah bah, tant mieux. Hein. Ouais. Ils sont concentrés sur autre chose.
Bah ouais. Ils sont sur les parents vigilants. Exactement. En ce moment, avec Zemmour, donc ils ont du pain sur la planche.
Ouais. Mais quel monde. Karim, est-ce que tu voulais compléter ou partager, toi, ton arrivée, en fait, dans ces stages, et la façon, peut-être, dont les programmes se sont établis, ou tu as participé aux 3 éditions ?
Oui.
Ok.
Oui.
Et c'est... parce que, donc, j'ai bien entendu tout le principe de la commission, de ce besoin et cette envie de plusieurs de lancer ces stages, etc. Mais comment... Parce que Enfin, vous êtes donc des professeurs, des enseignantes, des trois petits points, toutes les personnes de la communauté éducative. On imagine bien que vous n'avez pas que ça à faire, en fait, que de proposer comme ça des contenus, de créer des stages. C'est quand même un endroit très particulier de formation, là, pour le coup. Donc, comment, toi, par exemple, tu es arrivée avec un sujet, tu avais déjà travaillé auparavant les thématiques... alors toi, c'est la toute petite enfance, c'est ça, enfin, les petites...
Oui, moi, je suis en école élémentaire, donc oui, enfin, toute petite, je sais pas, mais en général, avec des CM1, CM2.
Ok.
CE2, CM1, CM2. Et oui, ça a été énormément de temps sur notre temps libre. Moi, j'avais pas forcément de connaissances. Enfin, pour le coup, j'ai commencé à enseigner en 2014. En 2017, j'étais déjà en train de co-créer le stage avec mes camarades. Et donc, je pense qu'on avait tous et toutes des connaissances militantes sur l'antiracisme ou d'autres choses, le féminisme ou bien le queer aussi, par exemple. Et grâce à nos connaissances personnelles, on a pu, créer des stages. En apportant ce qu'on pensait justement être essentiel. Le premier stage, faut le dire, il s'appelait Au croisement des oppressions, et c'était justement un stage dans lequel on abordait les questions d'intersectionnalité. Donc voilà, il me semble que le deuxième stage, si je dis pas de bêtises parce que j'ai un peu oublié, mais on parlait plutôt des... le deuxième, tu peux m'aider? Race, classe, genre, exactement. Et le dernier, c'était plutôt de questionner la classe et la race. Est-ce que la classe efface la race? Mm-hmm. Voilà.
Ok. Mais il me semble que toi, tu vas t'appuyer en fait sur une pédagogie bien particulière.
Oui.
Freiner,
frère.
Voilà, j'avais la moitié.
Freiner, frère. Donc, je travaille en pédagogie freinée. Je ne sais pas si je dois l'expliquer, mais peut-être.
Un peu, parce que j'avoue que moi, je ne la connaissais pas du tout.
D'accord. Dans ma classe, on est dans une classe coopérative. Et donc, le but, en fait, c'est... je vais essayer de le faire court. On n'est pas dans un système où l'enseignant apporte forcément les connaissances aux enfants de manière frontale et magistrale. Le but, c'est de co-créer des connaissances et de travailler un peu sur la manière dont on peut étudier le terrain. Voilà, en fait, l'élève est au centre de cet apprentissage. Voilà, je ne sais pas si c'est assez clair. Ouais. Et frère, justement, donc c'est frère a écrit Pédagogie de l'opprimé. Et donc, en fait, le but de la pédagogie frère, c'est justement de permettre, en fait, il y a une phrase qui est intéressante, je pense que je vais sortir celle-ci, c'est de dire que tout le monde est ignorant ou ignorante de quelque chose, mais tout le monde sait aussi quelque chose. Et donc, le but, c'est de se dire qu'on peut très bien connaître quelque chose en histoire, par exemple, et une autre personne connaîtra quelque chose en EPS, et donc du coup, le but, c'est de s'apporter, partager ses connaissances et d'avoir un système plus ou moins horizontal, parce que j'aime pas dire horizontal, parce qu'en réalité, l'enseignant ou l'enseignante est quand même, enfin voilà, on est quand même dans un système vertical, mais de s'approcher le plus d'un système horizontal. Et donc, par rapport à ça, par exemple, je pense que je peux parler de la pédagogie que j'essaye de mettre en place dans ma classe avec les parents. Souvent dans les écoles, et notamment dans les écoles en banlieue, dans les quartiers défavorisés, les parents sont assez absents. On les investit pas du tout dans l'école, alors que justement Blanquer, et dans le programme Blanquer, on parle de la coéducation, et donc du coup on dit qu'il faut justement essayer de mettre les parents aussi, d'investir les parents dans l'école. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de voir que en général les collègues nous disent les parents sont pas investis, les parents s'en foutent, les parents, mais en fait c'est pas le problème, c'est que les parents justement ont du mal à trouver leur place parce qu'on leur laisse pas la place, ou parce qu'on on leur parle pas de la manière dont il faudrait leur parler, par exemple. Ça, je pourrais y revenir. Et donc du coup, dans ma pédagogie, j'ai essayé de mettre les parents d'investir les parents dans la classe, et de leur permettre en tout cas de venir dans la classe apporter aussi des connaissances. Quand je suis arrivé dans l'école dans laquelle je travaillais, il n'y avait pas de kermesse, en fait. Donc, je précise, je travaille à Saint-Denis dans le 93, dans une grosse école où il y a 750 élèves, 42 enseignants et enseignantes. Donc, un gros quartier. C'est un gros quartier de Saint-Denis. Et donc, on n'avait pas de kermesse parce que 6 ans auparavant, il y avait eu une bagarre entre deux parents dans l'école. Donc du coup, tout le quartier était privé d'une kermesse et dont les enfants. Mmh. Voilà, c'est quand même hyper problématique, je pense. Et voilà, je me suis dit que c'était vraiment... Enfin, le rapport parent-élève était hyper problématique. Enfin, c'était limite, on jetait les enfants comme ça devant la grille, et même des enseignants sortaient jamais de la grille. Il y avait vraiment une barrière physique aussi, quoi. Mmh. Physique et voilà, dans le rapport aussi social. Et du coup, j'ai décidé de co-créer des jeux de société avec les parents, les familles, en partant de leur expérience. Et en fait, on a des heures d'APC quand on est en école élémentaire. Les heures d'APC, c'est des heures obligatoires. On doit en gros 1h30 à l'institution pour travailler avec des petits groupes d'élèves normalement, mais on peut faire un peu ce qu'on veut. On est assez libre pédagogiquement à ce niveau-là, et donc c'est cool. Et donc, pendant ces APC-là, j'ai décidé de, à chaque fois, faire intervenir des parents et de proposer d'apporter des choses, des connaissances en fonction de ce qu'ils, elles, voulaient. Généralement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de discussions autour des parcours migratoires, pardon, et de l'histoire de leur pays d'origine. Et donc, on a créé des cartes, c'était un peu une sorte de trivial poursuite qui mêlait un peu toutes les connaissances qu'on avait pu co-amener. Et voilà, et le jeu a circulé ensuite au sein du quartier, au sein de l'école. Et voilà.
Oui, mais on l'entend tout de suite, on est dans le pratique, en fait. On est dans comment agir directement avec les familles, avec les élèves. Et ce qui va être notamment un endroit très chouette de ce livre, c'est qu'il y a vraiment, c'est une boîte à outils, en fait. Oui. Il y a des choses qui peuvent être mises en place immédiatement, puisque vous les expliquez. Expliquer très clairement, vous donner des situations, donc pour vous deux parties, à chaque fois, en fait, il y a vraiment une explication par l'exemple. Mmh. Et ça permet tout de suite, en fait, de comprendre les mots utilisés, les façons d'y répondre, etc. Donc c'était, moi en le lisant, je me suis dit, mais en fait, c'est très précieux, parce qu'il y a plus, ça ne va pas demander aux enseignants-enseignantes de re-réfléchir. Ça peut être mis en place. Mais non, mais pour des personnes qui parfois peuvent, face à un énorme système qui est l'éducation nationale, pas avoir ce temps-là, en fait, d'avoir des clés en main, c'est toujours plus rapide, en fait, quand même. Mmh. Et dans ta partie, Karim, il y a cette idée aussi des petits rituels, donc de la carte d'anniversaire, mais aussi, et j'ai trouvé ça génial, de l'entretien avec l'enfant, enfin, l'élève. Parce que ça, c'est quelque chose sur lequel vous appuyez. On parle des élèves et non pas forcément des enfants. De garantir un espace de parole en petits groupes et que cette personne, en fait, puisse partager quelque chose qu'il y elle a aimé, qu'a fait pendant le week-end, etc. Et qu'à partir de ça, on puisse amener une discussion. Et je me suis dit, pour la cohésion de groupe, ça doit être assez... émotionnellement éprouvant aussi de voir tous ces élèves partager, mieux se connaître, parce que malgré tout, on sait très bien qu'en classe, en fait, on ne se connaît pas si bien. On n'a pas ces temps d'échange, en fait.
En fait, effectivement, dans la pédagogie dite institutionnelle ou classique, on a très peu de lieux de liberté de parole et d'échange. Et donc, je pense qu'on le connaît tous et toutes ici, quand on est passé à l'école. On ne doit pas faire de bruit, on ne doit pas parler, on n'a pas le droit d'exprimer. En fait, on vient à l'école en enlevant tout notre bagage identitaire, en fait, et même nos émotions, en réalité. Parce que, je ne sais pas, je prends plein d'exemples, mais moi, j'ai un élève, par exemple, qui arrivait souvent avec sa capuche parce que c'était difficile dans sa maison, etc. Et que du coup, il arrivait souvent, il avait besoin d'un temps de calme avant de pouvoir commencer les activités de la journée, et mes collègues lui disaient toujours « Enlève ta capuche !» dès le début, en lui criant dessus, alors qu'il était, il se sentait violenté tous les jours, et du coup, c'était pas du tout, ça fonctionnait pas, c'était contre-productif. Donc du coup, en pédagogie Freinet, on a déjà le conseil de classe, une fois par semaine, qui permet justement de débattre, ou en tout cas de parler des problématiques qui sont liées à la classe, mais aussi de féliciter, de se féliciter les uns et les autres, ou de proposer des suggestions, de proposer ce qu'on pourrait faire dans la classe, qu'on pourrait faire comme sortie, ce qu'on pourrait faire, voilà. Donc c'est un espace d'échange qui a lieu au moins une fois par semaine pendant une heure. Et sinon, on a aussi l'entretien du matin. Donc l'entretien du matin, le but, c'est de proposer à un ou une élève de venir et de parler d'un sujet, de son choix. Ça peut être apporter un objet et en discuter. Ça peut être parler d'un film qu'il ou elle a vu. Ça peut être plein de choses différentes. Mmh. On ne va pas rentrer dans les détails. Je pense que vous avez compris. Et à partir de ce moment-là, les autres élèves posent des questions à l'élève concerné. Et nous, en tant qu'enseignants et enseignantes, notre but, c'est de réussir à trouver, grâce au sujet, des manières d'aborder des débats liés à la classe, à la race et au genre, en fait. Voilà. Si les élèves ne le font pas. Mais ce qui est intéressant à voir, justement, c'est que plus nous, on apporte ces questions-là aux élèves, et plus on n'a plus besoin de le faire à la fin, puisque les élèves y arrivent directement et arrivent à comprendre, en fait, quels sont les mécanismes de la société et comment, en fait, comment on peut questionner le sujet en question à travers tous ces biais-là.
Je crois que c'était ça. Ouais, non, mais c'est passionnant. Je me rappelle de l'exemple que tu prends sur un jeune élève qui parle toujours de football.
C'est William.
D'avoir cet enfant qui ne parle que de ça et de faire, là c'est une bonne façon de mettre en perspective pourquoi est-ce que...
Oui, c'est ça. Voilà, en fait, c'est une question qu'on nous a beaucoup posée sur l'entretien du matin. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que ça peut mettre en évidence les différences de classe et que ça peut être problématique. Et en réalité, c'est vrai. Mais du coup, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on n'est pas là pour mentir aux enfants et on n'est pas là pour parler justement des problèmes qu'il peut y avoir dans la société, dont les problèmes de classe, en fait. Et nous, ce qu'on préconise, en fait, c'est de discuter de ça et donner des outils aux élèves concernés. Et de parler de classiste, de leur apporter le vocabulaire, même en CP, même en CE1, même en CE2, même cadets qui sont très petits et très petites, de parler de sexisme, de queerphobie, etc. Et donc, on pense que toutes ces choses-là, elles se voient dans tous les cas. Et on sait tous et toutes qu'on a déjà eu des camarades moqués, par exemple, parce qu'ils n'avaient pas les habits de marque ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est bien beau de faire semblant qu'on ne voit pas et que... Ça revient au même que ce que disait William justement avant, en disant il y a le racisme moral et le racisme institutionnel. Donc de dire c'est pas bien ce que tu as dit à ton camarade, ok, bien sûr qu'il faut le faire. Mais il faut aussi parler de ces questions-là et pouvoir définir avec les élèves, en tout cas de comprendre comment la société fonctionne en rapport de domination. Mmh.
Voilà. Oui, puisque ce qu'on va bien comprendre tout au long des différentes parties, c'est que ça va être à plein d'endroits différents. En fait, vous faites vraiment la grande image de l'antiracisme, que ce soit dans la façon de relationner avec les élèves entre eux, les élèves avec les parents, les élèves avec la communauté éducative, aussi de se questionner sur les sujets qui sont traités et comment ces sujets sont traités à l'école. Mmh. Donc là, évidemment, tout le passé colonial, l'histoire, la façon de raconter cette fameuse histoire avec un grand H, ça pourrait être la première chose qui vient en tête. Mais il y a aussi comment régler les conflits, comment en fait interagir à tous les endroits possibles et imaginables où ce fameux racisme systémique arrive à s'implanter et à s'accrocher en fait. Et donc vous allez vraiment chacune avoir un sujet à un moment donné qui va nous permettre de grossir l'image. Donc c'est vraiment très intéressant. Et donc dans ta partie William qui s'appelle donc Introduction à l'antiracisme politique. Alors j'avais pas donné le nom quand même de ta partie d'avant, décidément. Je n'ai plus mes réflexes, mais tu partais de construire une pédagogie antiraciste pour les plus petites. mais on l'avait bien entendu dans tout ton déroulé. Et donc William, ici, là tu t'attaques de ce fait à des restitutions d'ateliers en fait. Et donc ton introduction est assez courte, elle va vraiment nous situer dans la démarche, mais directement tu nous mets en fait dans des cas par cas, dire ouais voilà, on lance une discussion, il y a une thématique qui arrive et il y a toutes les différentes façons dont des personnes pourraient interagir. Et toi, après, t'apportes en fait ton point de vue, ta façon en fait de penser antiraciste d'une certaine manière. Ouais. Cette déclinaison-là, est-ce que tu peux nous parler de la façon en fait dont t'as créé cet atelier, d'où, comment ça se lance en fait, comment est-ce que c'est toi qui définis les sujets? Enfin, moi, j'ai évidemment, vu la période, j'ai noté la question sur le sapin de Noël, par exemple. Enfin, tu vois, toutes les questions que tu proposes en exemple, comment tout ça se met en place dans un groupe, j'imagine.
Alors, mon atelier, moi, il se destine aux enseignants. Après, j'avais pas eu que des enseignants, j'avais aussi eu des personnels d'éducation, des AESH, qui sont des accompagnatrices et des accompagnateurs d'élèves en situation d'handicap. Et en fait, cet atelier, il a été créé parce que ce qui revenait souvent de la part des professeurs blancs en général, c'était ce malaise en tant que professeur blanc par rapport à toutes ces notions en fait que l'antiracisme politique met sur la table. Et notamment la notion de race qui est la base, et ce mot il est très dérangeant, il fait très très mal quand on l'entend parce qu'il rappelle de sombres heures de l'histoire, et en plus bon, c'est un mot qu'aujourd'hui on voudrait plus entendre et qu'on voudrait invisibiliser parce que voilà, ça nous rappelle la race biologique, comment ça a justifié des exactions, des choses horribles pendant la colonisation, etc., et l'esclavage. Et donc le but, c'est avec les enseignants, en fait, de mettre les pieds dans le plat et de déconstruire toutes ces choses-là pour dire, en fait, aujourd'hui, quand on parle de race, on parle plus du tout de la race biologique, mais on parle de ce qui en découle. On parle des vestiges, on parle de ce qui reste, en fait, de cette idéologie-là, qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on a des assignations raciales qui font que les parcours de vie des personnes sont différents en fonction de ce à quoi ils sont assignés. Donc quand on est perçu comme noir ou arabe aujourd'hui, on n'a pas du tout le même parcours de vie que quand on est perçu comme blanc. Et d'ailleurs, les blancs ne se perçoivent pas comme blancs, parce que comme ils sont la norme, en fait, c'est quelque chose qu'on ne dit pas, en fait, quand on est blanc. Et justement, dans l'atelier, c'est marrant, parce qu'à un moment, on dit... à quel moment, ça a pu venir dans les premiers ateliers, à quel moment vous êtes perçu comme blanc? Et en fait, les personnes blanches disent, en fait, jamais. Moi, je me suis jamais qualifiée comme ça parce que c'est la norme. Or, nous, dès le plus jeune âge, il y a forcément un moment dans notre vie où on nous a renvoyé le fait qu'on était noir ou arabe ou rome ou asiatique, etc. Et ça, c'est des choses que cet atelier permet de déconstruire. Et donc les cas pratiques qui sont dans cet atelier, en fait cet atelier il est vraiment destiné à des enseignants qui sont pas forcément familiers de ces questions-là et qui donc veulent vraiment, ce que je disais tout à l'heure, mettre les pieds dans le plat et apprendre et comprendre ce que c'est que l'antiracisme politique et changer un peu la focale, déplacer la focale d'antiracisme moral à l'antiracisme politique. Et donc les cas pratiques, c'est des cas pratiques qui reviennent tout le temps. En fait, c'est des choses qu'on entend souvent. Sur la question de l'islamophobie, par exemple, qui fait beaucoup parler. En fait, on a l'impression que ça date de ces dernières vacances ou de la rentrée, mais en fait, à chaque rentrée, on a des offensives islamophobes du gouvernement qui veut contrôler comment les jeunes filles doivent s'habiller, comment les jeunes filles... Depuis la loi de 2004, qui est la loi qui a interdit le voile à l'école. Le nom, c'est pas ça. Le nom, c'est... c'est l'interdiction des signes ostentatoires religieux à l'école. Mais tout le monde sait que, en fait, c'est l'interdiction du voile. Voilà, parce que... et donc depuis cette loi-là, comment l'islamophobie perdure et s'exacerbe, parce qu'aujourd'hui on en est à dire en fait si t'as une robe trop longue, c'est un vêtement religieux qui, je le rappelle, n'existe pas, mais voilà. Si t'as une chemise trop ample, on veut savoir ce que t'as en dessous. Donc il y a quand même des élèves à qui on a demandé de se déshabiller pour savoir ce qu'elles avaient en dessous, parce qu'on a considéré que la chemise trop ample, c'était un vêtement religieux, les kimonos, il y a eu tout un truc. Donc ça revient systématiquement. Donc un des cas pratiques dans le livre, c'est la question du voile en sortie scolaire, parce que ça crée toujours des troubles, en fait. Ça crée des vagues, ces genres de situations, parce que les élèves se disent, en fait, on n'est pas dans le cadre de l'école en soi, on n'est pas dans l'établissement. Donc, elles se sentent autorisées de le mettre, et en fait, ça crée des débats pendant des heures. Il y a la question du sapin de Noël, ce qui ramène à la question de la laïcité, la fameuse. Il y a la question du racisme anti-blanc, enfin voilà. Donc en fait, on parle de plein de choses, et le but, c'est de déconstruire petit à petit ces choses-là, toujours en ayant un propos politique, parce que tout est politique. Et ce qu'on fait, comment on enseigne, c'est politique, les programmes scolaires sont politiques, ce que disait Karim tout à l'heure sur la position de l'enseignant, la position qu'on donne aussi à l'enseignant, enfin que l'éducation nationale donne à l'enseignant, et en plus là on a un ministre qui arrête pas de dire le mot autorité, autorité, autorité. Donc ça prouve en fait que vraiment tout ce qu'on fait dans la vie est politique, et même ce qu'on ne fait pas, ce qui apparaît comme n'étant pas soi-disant un choix, ben en fait c'est un choix, les non-choix sont des choix. Donc voilà, donc on en parle, et dans un cadre un peu bienveillant, parce qu'on le fait sous forme d'un jeu qui s'appelle le débat mouvant ou la rivière du doute, qui est une ligne en fait. Les gens se mettent en file, font la queue quoi, et en fait quand on dit l'affirmation, les gens doivent se mettre à droite s'ils sont d'accord, à gauche s'ils sont pas d'accord, ou ils restent au milieu s'ils ont pas d'avis, et ensuite ils échangent, et en fonction des échanges bah, y a des gens qui mouvent. Pardon, c'est le truc anglais. C'est la prof d'anglais qui ressort. Il y a des gens qui bougent parce que le débat est mouvant. Et donc, ça permet justement de faire changer de gens les positions, les gens, même physiquement, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, en débattant, ils s'entendent les uns les autres et ils disent « Ah ouais, ok, j'avais pas vu les choses sous cette forme-là. » Donc en fait, ils bougent donc dans la salle. Et voilà, c'est bon enfant, donc ça rit. Ça permet, voilà, de... Parce que c'est... Il y a beaucoup de tensions, en fait, dans ces sujets-là. C'est très, très fort. Surtout quand la majorité des enseignants blancs, sous couvert un peu d'universalisme, d'humanisme, un peu de ce truc de colorblind, de « je vois pas les couleurs, pour moi, les élèves, c'est tous les mêmes. Moi, quand j'arrive dans ma salle de classe, j'enchaîne de la même façon à tout le monde. » Bah justement, en fait, ça, c'est un problème. D'enseigner de la même façon à tout le monde, c'est un problème, parce qu'on part pas de ce que sont les élèves, vraiment. On part de nous, ce qu'on a dans la... Enfin, de des fois des fantasmes déjà, et de ce qu'on se dit que les élèves devraient être en fait. Et ça c'est problématique en fait, on devrait pas enseigner de la même façon à tout le monde, on devrait partir de ce que les élèves sont réellement. Donc voilà, voilà, des fois il y a des petites querelles parce qu'il y a des enseignants qui sont pas d'accord, parce que c'est très dur de se remettre en question et de déconstruire ses pratiques, c'est très dur de... En fait, des fois les enseignants ils nous disent mais du coup on fait quoi? On repart de zéro, on efface tout. Et voilà, ce genre d'atelier, ça permet en tout cas d'impulser cette réflexion qui doit continuer par la suite individuellement par s'éduquer soi-même et chercher à savoir et continuer de se former. Voilà. Et je voulais juste rajouter un petit truc, c'est que, en fait, souvent on se dit que supprimer les mots, ça va supprimer la réalité. Comme on a supprimé le mot race de la Constitution, par exemple, en se disant que ben, en fait, c'est un mot moche, comme si du coup le racisme n'allait plus exister parce qu'on avait supprimé le mot race. Mais ce qui fait le plus mal, en fait, c'est de ne pas nommer les choses, justement. En fait, c'est de ne pas les nommer, et même pour les élèves, ce qui fait le plus mal, parce que c'est souvent ce qu'on nous dit, c'est « mais vous n'avez pas peur de déprimer les élèves, en fait, ou les enseignants, mais plutôt les élèves, de déprimer les élèves en leur disant des choses comme ça, en fait, ils vont se dire qu'il n'y a pas d'avenir pour eux, qu'il n'y a pas d'issue. » Au contraire, en fait, ce qui fait mal, c'est de pas savoir ce qu'on vit, c'est de pas mettre des mots sur ce qu'on vit, et c'est de pas connaître les règles d'un jeu auquel, en fait, on est forcé de jouer malgré nous. Et c'est ce que disait Karim à juste titre, c'est que de dire très tôt aux élèves, bah voilà dans quelle situation vous êtes, voilà dans quel contexte vous êtes, mais il y a un espoir, et on fait ça parce qu'on a beaucoup d'amour pour nos élèves et parce qu'on a envie qu'ils s'en sortent, bah il y a un espoir, et maintenant que vous avez les règles du jeu, bah faut y aller, faut se battre, faut lutter, bah c'est ça qui fait du bien en fait.
Oui, c'est ça, c'est en fait tout le travail que vous effectuez depuis notamment, on va dire 2017, mais j'entends bien que c'est précédent, c'est de donner en fait des clés aussi aux enfants, aux élèves, pour peut-être aussi avoir les bons arguments, même si c'est toujours... Enfin non, j'allais dire, même si c'est toujours délicat qu'un élève soit celui, celle qui doivent se défendre, mais en vrai, il vaut mieux qu'ils aient en effet tout ce qu'il faut pour pouvoir se défendre, parce qu'on sait très bien que, bon ben là, typiquement dans vos classes, dans vos écoles, je sais même pas si d'ailleurs on peut le dire déjà, sur vos écoles, il y a une sorte de révolution qui a déjà pu être mise en place grâce à vous ou à tous les autres camarades, comme tu disais, Karim. Mais en tout cas, à partir du moment où il y a un mouvement de changement, en fait, c'est comme les petits ronds dans l'eau, quoi. Ça va aller de plus en plus loin. Et ça veut dire que cet enfant qui a été dans ta classe d'abord et puis qui a croisé des profs qui ont été dans tes stages ensuite, bah, quand il ira peut-être à l'université, bah, c'est une personne qui sera à même, en fait, de décrypter des comportements problématiques qui risqueraient en fait de le remettre directement dans quelque chose comme ça de la domination, ou en tout cas il sera pas à l'aise pour bien étudier ou pour bien être lui-même en étudiant. Cette question là d'être bien lui-même, c'est vrai que enfin ça paraît complètement parfois décalé en fait des programmes de l'éducation nationale. Enfin, vous l'avez dit chacun chacune, il y a quelque chose de se dire, on est face à plein d'identités, mais l'idée c'est de faire un seul type d'élève, surtout bon et aux couleurs de la France, quoi. Il y a vraiment ce truc encore très très fortement marqué. Mais bon, un rond à la fois, on va
mais, y arriver. Mais pour rebondir juste sur le mot décrypter très rapidement, en fait, ça donne aussi des clés aux élèves pour déconstruire les mythes qu'on leur apprend. Le mythe de la méritocratie, par exemple, qui détruit des élèves. Ça détruit des élèves quotidiennement, ce mythe, parce que ça leur fait croire que s'ils n'y arrivent pas, c'est de leur faute. Et que cette fameuse phrase de quand on veut, on peut. Or, quand on part pas tous du même endroit, bah, des fois, on a beau vouloir, mais en fait, on pourra pas. Et donc, ça permet de déconstruire ces mythes-là et de leur permettre de se dire, bah, en fait, que le problème ne vient pas d'eux, que le problème vient d'un système qui n'est pas en leur faveur, voilà. Ça permet déjà en termes de santé mentale, ça permet de sauver des gens. et ça permet, ouais, voilà, aux élèves de décrypter des choses et tout au long de leur scolarité.
Les accompagner. Alors tu parlais de nommer des mots et bon, pour en revenir à Shed, je pense que quand on lit ce livre, il y a quelque chose quand même d'un changement total de prisme de lecture, puisque vous êtes allé vraiment très très loin dans ce qu'on va nommer comme une langue inclusive, même si on peut la nommer différemment. Mais quel travail d'écriture, de proposition en fait aussi de mots, parce que alors à l'oral le petit x j'essaye, hein, c'est je pense des choses qui demandent un tout petit peu de travail de prononciation, mais ça se fait évidemment. Mais à la lecture, en fait, on a moins en fait ce blocage de l'oral, et donc on peut complètement accueillir toutes vos propositions de vocabulaire qui sont indiquées dès le début. Mais en tout cas, est-ce que Lydia, tu peux nous parler un peu de cette démarche? Enfin, en tout cas, moi, à ce point-là, je l'avais encore jamais vu dans un essai, en fait, enfin dans un livre qui se veut théorique et de recherche, quoi.
Je peux en dire deux mots. Effectivement, en fait, nous, on a opté pour ce qu'on appelle une charte d'écriture multigenre que j'ai travaillée avec Laura Boulic, qui fait partie de la maison d'édition et qui a une pratique de poésie. Enfin, les poètes, avant sa vie de secrétaire éditoriale de Shed, etc., elle a cette pratique de la poésie. Et elle avait réfléchi, en fait, à ce qu'on appelle aussi, l'écriture inclusive, etc. Et dans nos discussions, quand on a pensé la maison, en fait, moi, j'avais lu un petit édito de Sam Bourcier qui s'appelait « Fuck le point médian » à l'époque. Et ça date un petit peu. Et en fait, qui, réfléchissait à l'emploi du point médian par les municipalités. Maintenant on a fait un gros retour en arrière puisque ça a été interdit, c'est interdit, etc. Cette nouvelle forme d'écriture qui finalement rebinarise la langue et crée, recrée en fait de la binarité homme-femme, etc. Et donc lui, il avait cette proposition en fait de trouver une langue neutre et de dépasser en fait le genre, créer une langue post-genre, disons. Ça a nourri les réflexions, et Laura, elle avait aussi fait dans ses recherches, par exemple, elle allait retrouver des formes qui étaient utilisées dans le français du Moyen-Âge. Par exemple, dans la charte, on a le naïf F-V-E à la fin. Voilà, ça, c'est une forme, par exemple, du Moyen-Âge. Et en fait, quand tu parles de l'oral, Là, on n'a pas d'imposition, en fait. Enfin, tu peux le dire, je peux dire de la façon dont tu le souhaites. Tu peux, je sais pas, enfin, dire, je sais pas, instituteur, hein, ouais. Et institutrice, institutrix, je sais pas, enfin, ça c'est à la personne d'inventer quoi à l'oral. On n'a pas d'imposition sur ce point-là. Mais en fait, nous, notre démarche, c'est qu'à l'écrit, on réveille un peu l'imaginaire du lectorat et en fait, on s'introduit un peu dans l'imaginaire parce que quand on a tellement eu l'habitude d'avoir une langue très très masculine. Que, en fait, quand on lit un texte et qu'il y a une figure voilà, genrée, notre imaginaire automatiquement va visualiser un homme, pourquoi pas un homme blanc aussi. Donc en fait, c'est des petits rappels, c'est X, c'est tréma, pour essayer de convoquer d'autres figures quoi, dans la lecture.
Ouais, ouais, et ça marche vraiment bien. Il y a un nombre de possibilités... Enfin, je trouve que c'est assez réjouissant aussi qu'en fait, tant dans le fond que dans la forme, on fasse tout exploser, tant qu'à faire. En tout cas, merci beaucoup à tous pour votre implication, votre travail, ce livre, c'est incroyable. En tout cas, quel outil. Je suis vraiment ravie de vous avoir rencontré, voilà, tout simplement.
Moi aussi.
Merci.
Pareil.
Merci beaucoup, Lydia. Merci beaucoup, Karim. Merci beaucoup, William.
Merci, Sozy.
Alors, heureuse, vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchie Podcast en compagnie de Lydia Amarouche, de Karim Betayeb et de William Beroum à l'occasion de la publication de l'ouvrage collectif « Entrée en pédagogie antiraciste, d'une lutte syndicale à des pratiques émancipatrices ». Porté par Sud Éducation 93 et publié chez Shed. La Franchie Podcast, c'est Soazic Courbet à la conversation, Pierre-Antoine Naline à l'habillage sonore et Léa Le Faucon pour l'univers graphique. La vie n'est pas là. Que le matin, tu te lèves sans savoir où tu vas. Résiste. Prouve que tu existes. Avec La Franchie Podcast.
Hey marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.